Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci d'écouter Studio Tamani, il est 8h à Bamako. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le titre de cette édition. Le gouvernement du Mali dénonce le rapport du Bureau des droits de l'homme de la MINUSMA sur l'opération militaire du Moura en mars 2022. Ce rapport accuse l'armée et un personnel militaire étranger d'avoir exécuté des centaines de civils. Va-t-on vers une relance de la mise en œuvre de l'accord de paix? En visite vendredi dernier à Kidal, le ministre de la Réconciliation a réitéré l'engagement du gouvernement en faveur de cet accord. Des étudiants maliens de retour du Soudan s'inquiètent de la poursuite de leur cursus universitaire. Rapatriés à cause des conflits dans ce pays, ils aspirent à une accalmie pour y retourner. Voilà pour les titres, tout de suite le développement avec Sekou Gadjigo. Nuhum Djiri assure la mise en onde. Plus de 500 personnes tuées, dont la plupart sommairement exécutées par les forces armées maliennes et un personnel militaire étranger. C'est ce qui ressort d'un rapport publié ce vendredi par le Bureau des droits de l'homme de la MINUSMA sur l'opération militaire menée par l'armée malienne à Moura en mars 2022. Le gouvernement de la transition dénonce avec véhémence un rapport biaisé reposant sur un récit fictif. Imirana Kilumaïga.
Selon des témoignages rapportés par le rapport, le 27 mars, début de l'opération, un hélicoptère militaire survole le village Moura en ouvrant le feu sur la population, tandis que quatre autres hélicoptères atterrissent et des troupes débarquent. Les soldats encerclent les gens dans le centre du village, tirant au hasard sur ceux qui tentaient de s'échapper. Toujours selon des témoins, certains militants de la Katiba Massina présents dans la foule ont riposté au tir des troupes. Au moins 20 civils et une douzaine de membres présumés de ce groupe djihadiste sont tués. Les 4 jours suivants, au moins 500 individus, y compris une vingtaine de femmes et 7 enfants, sont exécutés. Cela après que la zone a été totalement maîtrisée, précise le rapport. La mission d'établissement dispose des noms d'au moins 238 de ces personnes qui ont été exécutées. Sur la base des témoignages recueillis, celle-ci rapporte que 58 femmes et jeunes filles ont été victimes de viols et autres formes de violences sexuelles. Dans un communiqué ce samedi, le gouvernement de transition a qualifié ce rapport de biaisé reposant sur un récit fictif. Il affirme qu'une enquête a été ouverte depuis l'année dernière pour faire toute la lumière sur les allégations de violation des droits humains à Moura. Et cette enquête suit son cours. Le gouvernement décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage, atteinte à la sûreté de l'État et complot militaire, des crimes réprimés par le code pénal.
Certains spécialistes des droits de l'homme et du droit international humanitaire indiquent que la démarche du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies viole les principes de non-ingérence dans les affaires internes des États membres. Pour eux, la mission d'établissement des faits devait passer par les institutions maliennes chargées des droits de l'homme. Docteur Ahmed Samake, juriste spécialisé dans les questions de droits de l'homme et du droit international humanitaire, il est au micro de Imirana Kilumaïga.
Cette enquête a beaucoup de chances d'aboutir dans la mesure où nous associons également ces partenaires étrangers qui étaient du côté de nos femmes et qui ont aussi un droit de veto au niveau des Nations Unies. Donc, ils pourront passer par ces partenaires étrangers, mener des enquêtes judiciaires pour montrer la preuve contraire, plus précisément la Russie. Parce qu'il y a un principe qu'on appelle en droit de l'homme, la non-ingérence dans les affaires internes des États membres. Donc, quand le Bureau des Nations Unies doit mener une telle enquête, ils devront passer par les organes ou les institutions chargées de la protection des droits de l'homme qui sont sur place au Mali. Chose qui n'a pas été faite. C'est une atteinte à la sécurité de l'État dans la mesure où il y a une violation de notre espace aérien. Parce que dans la souveraineté de l'État, il n'y a pas seulement que les frontières terrestres, il y a aussi les frontières aériennes qui devront être respectées. Donc, il ne doit pas y avoir de capture satellitaire à travers notre espace aérien sans une autorisation préalable de l'État malien.
Vous pouvez donc réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, colonel Major Ismaël Ouagé, était en visite vendredi 12 mai à Kidal. Il a rencontré les responsables des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Cet accord dont la mise en œuvre est bloquée depuis plusieurs mois. Le point avec Kouma Finkeita.
Cette visite de courtoisie s'est déroulée alors que l'accord pour la paix et la réconciliation signé entre le gouvernement du Mali et les groupes armés du Nord aura 8 ans bientôt. Je viens rendre visite à Al-Gabas et à tous les représentants des mouvements signataires qui se retrouvent dans l'accord, a déclaré le colonel-major Ismaël Ouagé devant les éléments du bataillon de forces armées reconstituées. Avant d'ajouter que Le gouvernement du Mali est dans l'accord et le gouvernement fera tout pour que, dans le cadre de l'accord, vous puissiez vous épanouir et qu'on puisse atteindre les objectifs ensemble. Pour le ministre Wagé, cette visite est pleine de sens. Il a aussi appelé les mouvements armés à se donner la main avec le gouvernement pour lutter efficacement contre l'ennemi, à savoir le terrorisme et l'insécurité. En rappelant que, depuis plusieurs mois, l'accord pour la paix et la réconciliation connaît des blocages dans sa mise en œuvre. Le CSA, comité de suivi de l'accord, ne s'est plus réuni depuis sa 46e session tenue en octobre 2022.
Deux hommes ont été enlevés samedi dernier par des individus armés non identifiés à la foire hebdomadaire de Tassiga, commune de Boura, cercle d'Ansongo, toujours dans le nord du pays. Des témoins affirment que les raisons de leur rapt restent inconnues, mais les familles des victimes ont entamé des recherches. Plus de 200 Maliens volontaires rapatriés du Soudan depuis le mois d'avril passé. À nos jours, selon les autorités maliennes, parmi ceux-ci figurent une cinquantaine d'étudiants. Ils se portent bien, affirme le vice-président de l'Union des étudiants maliens au Soudan, Ali Sanogo. Toutefois, il regrette que ce conflit au Soudan aura une grave répercussion sur leur cursus universitaire. Ali Sanogo souhaite une accalmie pour qu'ils puissent y retourner afin de poursuivre leurs études. Il est joint par Kouma Finkita.
Nous sommes là, à peu près 50, tout le monde se porte bien. Les Maliens là-bas, tout le monde se porte bien, alhamdoulilah. Et même nous, on est retourné avec quelques-uns. On a étudié le charia, il y en a aussi qui ont étudié informatique. Mais avec les guerres, là, sincèrement, ça va nous retarder, quoi. Il y a des gens qui ont fini avec des études, mais ils n'ont pas eu leur diplôme. Ils ont commencé la procédure. Et il y a des gens aussi qui ont commencé les études. Mais leurs études, ça va s'arrêter comme ça. Vraiment, ça va nous retarder beaucoup. Et en plus, nous remercions l'autorité malienne parce qu'ils ont pris tous les biscuits position pour qu'on vienne au Mali sain et sauf.
Place à présent à votre rubrique. Vérifions cette rubrique qui vous permet de démêler du vrai du faux. Des images largement partagées sur les réseaux sociaux prétendent que le premier ministre Choguel Kokala Maïga est actuellement en visite en Côte d'Ivoire. Fatoumata Kodjo l'a vérifié pour nous.
La dite publication sur la toile affirme que Choguel Kokala Maïga est à Abidjan pour chercher l'argent de l'élection prévue au Mali et pour négocier l'électricité avec Alassane Ouattara. Après Abidjan, il doit aller à Paris, France, pour chercher l'argent, indique le même poste. La publication est accompagnée de la photo du premier ministre malien Choguel Kokala Maïga et de son homologue ivoirien Patrick Hachi. Mais il s'agit d'une fausse information. Cela est confirmé par le chef de la cellule de communication de la primature. Après vérification, il s'avère que les images illustratives sont anciennes. Elles ont été prises lors du sommet de l'Union postale universitaire en août 2021. Le chef de la cellule de communication de la primature précise que les dernières fois où le premier ministre a fait un déplacement hors du pays, c'était lors de l'investiture du président brésilien Lula da Silva en janvier dernier et une mission à Doha au Qatar en mars dernier.
La grogne sociale, la célébration de la journée africaine de lutte contre la drépanocytose et le document de vote pour le référendum du 18 juin prochain sont entre autres les sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine dernière. Le résumé avec Lala Aïcha Walet Info.
Nous débutons cette rétroactive par la grogne sociale de la semaine dernière au sein de certaines structures. Les agents des collectivités territoriales ont observé lundi dernier un arrêt de travail de 4 jours. Selon ses responsables, cette grève fait suite à la non-satisfaction des points de revendication. Les syndicats des transporteurs routiers étaient aussi en arrêt de travail. Mais cette grève a été suspendue suite à des menaces d'agression selon les responsables du syndicat. Autre actualité, c'est la célébration le 10 mai dernier de la journée africaine de lutte contre la drépanocytose. Lors de cette commémoration, les responsables sanitaires ont indiqué que plus de 15 000 personnes souffrent de drépanocytose au Mali. Terminons par la carte biométrique sécurisée qui n'est plus l'unique document de vote pour le référendum du 18 juin. Les électeurs peuvent désormais voter avec la carte d'identité nationale, les passeports et les permis de conduire.
Un mot de sport avant de refermer cette édition. Le Mali ne jouera pas sa quatrième finale de CAN des moins de 17 ans. Les Aiglonais sont tombés hier devant les Lionceaux de l'Atlas du Maroc au tir au but 6-5. Les deux équipes s'étaient neutralisées 0 but partout au temps réglementaire. La finale de cette CAN U17 va donc opposer le Sénégal au Maroc, alors que le Mali et le Burkina se disputeront la troisième place. Vous pouvez donc retrouver ce journal sur la plateforme Biamo en appelant 37 321. Vous pouvez aussi le réécouter ainsi que toute la production de Studio Tamani sur l'application Studio Tamani disponible sur Play Store. Merci d'avoir suivi cette édition présentée par Sekou Gadjigo, mise en nom de Nuhum Djiré. Tout de suite, Aïssa Tadjara sera là pour le journal en Bambara.
Référendum constitutionnel 2023. Dimanche 18 juin, les Maliens sont appelés aux urnes pour se prononcer sur la nouvelle constitution.
Pour ce scrutin référendaire, les Maliens devront choisir entre le bulletin blanc et le bulletin rouge.
Le bulletin blanc s'il vote oui, le bulletin rouge s'il vote non.
Tous les citoyens inscrits sur les listes électorales sont appelés à prendre part à ces scrutins importants pour l'avenir du Mali.
Studio Tamani et ses partenaires
accompagnent le scrutin référendaire du 18 juin.
La période hivernale est un moment où les risques d'inondation sont très élevés au Mali. Ces dernières années, des pertes en vie humaine et des dégâts matériels ont été enregistrés dans beaucoup de localités. En plus des effets du changement climatique, des environnementalistes pointent du doigt certains comportements des populations. Ils préconisent des gestes pour prévenir d'éventuelles inondations cette année. C'est le sujet du magazine Parlons de l'environnement, une réalisation de Khalifa Goïta.
L'Agence nationale de la météorologie du Mali prévient qu'en plus d'un démarrage précoce, de fortes précipitations sont attendues pendant cette saison des pluies 2023. Elle alerte sur des risques de maladies et inondations. Madame Diabaté Fatmata Sango, directrice des applications météorologiques.
La pluie sera abondante cette année et il y aura certainement des inondations dues à plusieurs facteurs, notamment l'obstruction des caniveaux entre autres. Nous demandons aux populations de suivre les conseils du service météorologique, surtout ceux qui vivent au bord du fleuve. Le paludisme et autres maladies sont fréquents pendant l'hivernage. Nous encourageons tout le monde à prendre leurs dispositions pour se protéger.
À l'approche de l'hivernage, des habitants en commune 4 du district de Bamako s'inquiètent des inondations. Cette année, cette inquiétude est accrue par les déchets solides. Ces ordures, depuis plusieurs semaines, sont déversées devant les maisons et dans les rues à cause d'un manque de dépôt de transit.
Nous souffrons beaucoup en commune 4. En plus de la mauvaise odeur, nous sommes obligés de brûler nos ordures. Des gens aussi déversent leurs déchets dans les caniveaux, c'est gênant.
Il faut qu'on dégage les ordures du dépotoir de la commune 4. Ensuite, les déchets entassés dans les rues. Brûler les ordures, c'est très dangereux pour l'environnement. L'hivernage approche, ça nous inquiète. Surtout que tout le monde sait que les gens vont commencer à déverser leurs ordures dans les caniveaux.
Que les autorités nous trouvent une solution. Les déchets sont dangereux et peuvent causer des maladies.
Jeter les ordures dans les caniveaux sont des gestes que dénoncent des environnementalistes à Bamako. Ils estiment que les municipalités ont leur part de responsabilité. Adama Sambou Sissogo, environnementaliste.
Ce n'est pas une bonne chose. Les différents marigots qui traversent la ville de Bamako pour se jeter dans le fleuve Niger soient obstrués, ce qui va augmenter le risque d'inondation. Les constructions s'écroulent à partir de là. C'est quand même écœurant qu'on n'a pas encore commencé à curer les caniveaux, que les maires fassent le curage des caniveaux avec assez de rigueur aux populations d'arrêter de se faire du mal. Les mêmes populations qui déversent les déchets dans les caniveaux, ce sont les mêmes qui sont touchées, qui perdent les proches.
Pour prévenir les inondations, la mairie de Ségou effectue chaque année des opérations de curage des caniveaux. Mais à ce stade, des habitants constatent un retard. Ils interpellent les autorités d'être sensibles à leur cas.
À Ségou ici, la mairie effectue des curailles des caniveaux. Mais à part ça, il y a l'incivisme des gens. Les caniveaux sont considérés comme des dépotoirs.
À ce niveau, il faut reconnaître que beaucoup d'initiatives ne sont pas prises. Sinon, on allait faire voir cette année des curages de fossés ou autres là.
Il est temps que toutes les parties prenantes s'y mettent pour faciliter l'écoulement des eaux que nous avons perdues d'inondation.
Néanmoins, à Mopti, au centre du pays, les autorités municipales disent être à pied d'œuvre dans la mise en œuvre de leur plan d'action. Objectif, minimiser les risques d'inondation. Albacha Mahaman, maire délégué de la ville de Sévaré.
Nous avons commencé tôt cette année grâce à l'apport d'une ONG, WHH, qui nous a permis de curer déjà beaucoup de caniveaux entre Mopti et Sévaré, de nous permettre également d'avoir certains matériels pour pouvoir pallier à certains problèmes. Parce que vous savez que Mopti, c'est une zone en proie aussi à l'inondation. C'est pourquoi on prend cette question très au sérieux.
C'est la fin de ce magazine Parlons de l'environnement, présenté par Khalifa Gouita.